Sigrid Brinkmann vous souhaite la bienvenue. Pour la 41e édition de Literamour, j'ai invité l'auteur Marianne Loudes. Son roman Trio mit Tiger, Trio avec Tigre, est paru fin août 2025. Marianne Loudes se plonge dans la vie du peintre célèbre Max Beckmann et de sa femme Mathilde dans les années 1941-42. Le couple vivait en exil depuis 4 ans. Max Beckmann était proscrit en Allemagne. Il avait été contraint de démissionner de son poste d'enseignant à la fameuse Städelschule de Francfort en 1933, et plus de 600 de ses peintures, dessins et gravures étaient retirés des musées. En 1937, le jour de l'inauguration de l'exposition itinérante Propagandist and Art de Kunst, Art décadent, dans laquelle 21 tableaux de Beckmann étaient exposés, le couple prenait le train pour Amsterdam. Les deux sont restés aux Pays-Bas jusqu'en 1947, puis partaient à New York. Beckmann y mourut 3 ans plus tard, sa femme Mathilde, surnommée Quappi, en 1986. Marianne Loudes écrit du point de vue de Quappi et, dans des chapitres alternés, se penche sur le travail de l'historien de l'art Erhard Goeppel. Celui-ci était chargé de rassembler, dans les Pays-Bas occupés, des tableaux de grande valeur pour un musée que Hitler prévoyait de créer à Linz. Goeppel admirait la peinture de Max Beckmann et l'aida à échapper à la conscription. Jusqu'à présent, la vie de Quappi Beckmann n'avait pas fait l'objet d'une œuvre littéraire. Et on ne sait pas grand-chose d'Erhard Goeppel qui a cofondé la société Beckmann en 1953 et travaillé à une liste des œuvres complètes. J'ai demandé à Marianne Loudes comment elle avait développé son intuition pour ces deux personnalités.
Also bei Quappi Beckmann hatte fast ein bisschen was Mystisches, weil ich habe mich mit dieser Figur beschäftigt, die hat mich beeindruckt.
Eh bien, avec Quappi Beckmann, il y avait quelque chose de presque mystique. Je me suis intéressée à ce personnage qui m'a impressionnée, j'ai vu des photos d'elle. Et bien sûr, j'ai été touchée par ce mariage, une très jeune femme qui épouse un artiste célèbre. Puis j'ai commencé à écrire et j'ai intuitivement choisi la forme d'un journal intime sans y réfléchir. J'avais déjà écrit près de 80 pages lorsque j'ai appris qu'elle tenait réellement un journal intime dans la vraie vie. Et puis j'ai reçu ces journaux intimes de sa petite fille, Mayen Beckmann. J'ai constaté que beaucoup de choses que j'avais ressenties auparavant, qui pour moi découlaient des images, des photos, mais aussi des peintures que Max Beckmann avait réalisées d'elle, correspondaient en fait à la réalité.
Dass das auch tatsächlich der Realität entsprach.
Le journal intime vous a aussi permis de ne pas avoir à juger le parcours de vie, les choix et les décisions de Mathilde Beckmann.
Das war gar nicht meine Motivation. Ich glaube, Sie spielen auf die Frage an, dass sie ihren Beruf aufgegeben hat oder überhaupt nie angefangen hat, den Beruf auszuüben. Sie war
Ce n'était pas du tout ma motivation. Je pense que vous faites allusion au fait qu'elle a abandonné sa profession ou qu'elle n'a même jamais commencé à l'exercer. Elle était violoniste de formation et également chanteuse d'opéra. La réponse simple serait de dire « Eh bien, elle est née en 1904 et lui en 1884 ». C'était bien sûr une époque complètement différente. Mais c'est trop réducteur. Dès le début, Beckmann lui a demandé de ne jamais exercer de profession, de se consacrer entièrement à lui en tant que personne et en tant qu'artiste. Il en parle explicitement dans ses lettres. Et pour Quappi, cela n'a pas été un obstacle dans sa vie, mais plutôt un accomplissement. Il faut considérer ce mariage sous l'angle de l'épanouissement, dans le sens où ils ont comblé l'un chez l'autre ce qui lui manquait, au sens spirituel. C'était une relation très spirituelle. Aujourd'hui, on a peut-être du mal à comprendre cela, car nous avons une conception complètement différente du couple. Mais je peux dire que c'était ainsi pour eux deux.
1942 hat Mathilde Beckmann eine Weiche gestellt, indem sie ihre Geige verkauft hat, eine Stradivari. En 1942, Mathilde Beckmann a pourtant pris une décision importante en vendant son violon, un Auer 1691 attribué à Stradivarius, un violon que sa mère, violoniste de concert, lui avait offert. Elle l'a vendu à un couple qui avait peu de talent musical, mais beaucoup d'argent. J'ai choisi un passage du livre qui décrit la position de Mathilde Beckmann. Si vous pouviez le lire, s'il vous plaît.
Hedda hatte bis zuletzt gegen mich gekämpft. Sie hat mir Geld geboten. Sie könne noch mehr aufbringen. Mutter fragen. Aber wir wollten das alles nicht. Das geht nicht. Wir können keinesfalls Almosen entgegennehmen. Fortgesetzte lange Diskussionen mit meiner Schwester. Ich verriete meine Karriere. Nach dem Krieg könne ich als Musikerin arbeiten, was ich schon immer hätte tun sollen. Man würde mir Geld
Ida
zahlen
s'est battue
für meine
contre
Auftritte.
Moi jusqu'au bout. Elle m'a proposé de l'argent, m'a dit qu'elle pouvait en trouver davantage, demander à ma mère, mais nous ne voulions pas de tout cela. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons en aucun cas accepter l'aumône. Longue discussion avec ma sœur. J'ai trahi ma carrière. Après la guerre, je pourrais travailler comme musicienne, ce que j'aurais toujours dû faire. On me paierait pour mes performances. Je pourrais être une femme indépendante. Elle n'avait finalement pas ajusté ça, par politesse, mais elle l'avait bien pensé. Je pourrais échapper aux difficultés d'un mariage contraignant. Max ne faisait que me tyranniser. Je faisais tout ce qu'il voulait. Tout cela me faisait mal, bien sûr, même si j'avais toujours su secrètement ce que ma mère et elle pensaient de Max. Mais elle ne l'avait jamais dit aussi clairement jusqu'à présent. C'était bien que tout soit enfin dit. Ada se trompe, elle compare Max à notre père. Bien sûr, papa était un peintre célèbre. Il a peint tout et tout le monde, pourvu qu'il soit célèbre. Et cela marque précisément la différence. Il a peint le monde tel qu'il est. Peut-être l'a-t-il un peu embelli, enjolivé, chargé, doté d'une plus grande signification. Il a peint le monde limité, le monde des belles apparences, de l'idylle, le monde illusoire. Il n'a jamais quitté le cadre du visible. Il est et était prisonnier de ce monde. On comprend ce que l'on voit, on voit ce que l'on comprend. J'ai été surprise et étonnée qu'elle ose comparer l'œuvre de notre père à celle de Max Beckmann. J'aime beaucoup mon père, mais c'était un peintre de salon, un artiste à la demande extrêmement populaire et couronné de succès à la belle époque. Max Beckmann est un artiste d'un autre genre. Je sais que cela semble vaniteux et présomptueux, mais c'est pourtant la vérité. C'est un génie. Je l'ai su dès que j'ai vu son œuvre, au premier regard. Qui d'autre pouvait le reconnaître si ce n'est moi? Je suis la fille d'artiste. J'ai l'œil pour reconnaître l'excellence de son art, et Ada le sait, en principe. Mais elle refuse de l'admettre, car elle croit que l'on peut apprivoiser Max Beckmann, qu'on peut le rendre docile. Comme si mon rôle consistait à faire de lui un brave bourgeois. Ne comprend-elle pas que je n'ai jamais voulu cela? Ne voit-elle pas que cela coûterait au monde si je ne me concentrais que sur moi-même? Max Beckmann n'est pas une valeur stable. Il n'est pas stable. Il est un concentré d'énergie.
Als sei meine Rolle, ihn zu verbürgerlichen. Versteht sie nicht, dass ich das nie wollte? Sieht sie nicht, was es die Welt kosten würde, konzentrierte ich mich auf mich? Max Beckmann ist keine stabile Größe. Er ist kein stabiler Zustand. Er ist ein einziger Kraftakt.
Diese Auseinandersetzung mit der älteren Schwester, die schon früher als die Beckmanns ins Amsterdamer Exil gegangen war, sind sehr wichtig für das Schaffen des Profils von Mathilde Beckmann.
Les disputes avec sa sœur aînée, qui s'est exilée à Amsterdam plutôt que les Beckmann, sont très importantes pour cerner la personnalité de Mathilde Beckmann. Peut-on dire que Max Beckmann n'aurait pas survécu à la dureté croissante de la guerre, à l'isolement social et à l'angoisse pour ses amis juifs sans la présence de sa femme?
Das war vielleicht ohnehin die Rolle von Quappi, ihn am Leben zu erhalten. Er brauchte sie wirklich für sein Leben, ohne sie konnte er gar nicht leben.
Je dirais que oui, c'était peut-être le rôle de Quappi de le maintenir en vie. Il avait vraiment besoin d'elle pour vivre. Sans elle, il ne pouvait pas vivre. Elle lui a interdit de peindre à l'huile, la couleur produit des évaporations et cela le fatiguait trop. Il avait un cœur très faible. Il est d'ailleurs mort plus tard d'une crise cardiaque. Elle veillait sur lui partout où il allait et le dorlotait autant que possible. Il était bien sûr un volcan. C'était assez difficile de le contenir.
Mathilde Beckmann hat sich ja doch auch sehr selbstbewusst mit der Rolle der Ermöglicherin von Kunst begnügt. Mathilde Beckmann s'est contentée sur d'elle de faciliter la vie d'un grand artiste. Mais un jour, un geste lui a porté un sacré coup. Son mari avait promis un tableau à Erhard Goeppel, qui avait pris le risque d'assurer des services de messagerie et d'apporter des tableaux en Allemagne, où ils étaient ensuite transmis à des clients potentiels par une importante collectionneuse. Goeppel avait le droit de choisir. Il a justement opté pour un autoportrait que Beckmann avait offert à sa femme. Vous décrivez la méchanceté de ce choix. Goeppel observe la réaction de Quappi du coin de l'œil. Il triomphe.
cela s'est-il vraiment passé ainsi?
Ja, absolut. Dazu muss man noch wissen, dass Beckmann die Öl-Selbstporträts bestenfalls eins im Jahr gemacht hat. Das war etwas Besonderes.
Oui, absolument. Il faut savoir que Beckmann ne réalisait qu'un seul autoportrait peint à l'huile par an. C'était quelque chose de spécial. Ces tableaux étaient très recherchés. Tout le monde voulait acheter un tel portrait. Beckmann offrait rarement des tableaux à sa femme. C'était un bien économique. Lorsqu'il en offrait un, il y avait un certificat qui l'accompagnait. C'était vraiment un acte formel. Le fait qu'il lui ait offert ce tableau était un acte d'amour particulier. C'est précisément celui-là que Goeppel a choisi. Il savait exactement ce que cela coûtait à Mathilde. Beckmann a réalisé une deuxième peinture cette année-là, une peinture de réconciliation, qui a d'ailleurs été récemment vendue aux enchères chez Grisebach pour 20 millions d'euros.
Un Versöhnungsgemälde, angefertigt, das übrigens jüngst bei Grisebach für 20 Millionen Euro versteigert worden ist.
Gucken wir nochmal auf diesen Erhard Goeppel, der ja mit bekannten NS-Größen zusammengetroffen ist. Erhard Goeppel a rencontré des personnalités nazies de renom. On les retrouve dans votre livre. Fritz Schmidt, représentant du chef suprême des Pays-Bas. Le commissaire du Reich, Arthur Seyss-Inquart, ancien chancelier autrichien. Goeppel voit Martin Bormann, confident d'Hitler. Hermann Voss, représentant spécial du musée du Führer à Linz. Bruno Lose, chef du Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, qui confisquait les biens juifs. Hermann Göring fait également une apparition. Goeppel veut aider les Beckmann et tente de libérer les Juifs internés dans le camp de transit de Westerbork. Mais principalement, il n'a aucun problème à procurer des œuvres d'art pour l'Allemagne nazie. On sait à quel point la situation des collectionneurs persécutés a été exploitée sans scrupule. Quelle importance accordez-vous à l'exploration des zones d'ombre où l'on cerne des personnes faire du bien tout en se compromettant?
Für mich war die Frage anders. Also ich habe mich immer gefragt, wie konnte es überhaupt dahin kommen? Wie konnte es zu Auschwitz kommen? Ja, die Menschen stehen ja nicht morgens auf und sagen, ich will Kriegsverbrecher werden.
Je me suis toujours demandé comment on en était arrivé là. Comment Auschwitz a-t-il été possible? Les gens ne se lèvent pas le matin en se disant, je veux devenir un criminel de guerre. Beaucoup de citoyens honnêtes et tout à fait normaux ont participé d'une manière ou d'une autre ou ont détourné le regard. Goeppel correspond parfaitement à cette description. Car c'est en fait quelqu'un d'instruit et d'intègre. Soudain, il se retrouve pris dans un engrenage où il se rend peu à peu compte du crime qui se cache derrière. Il sent alors qu'il fait partie intégrante de tout cela. Lui-même ne devient pas un criminel, il ne tue personne, il ne livre personne au bourreau, bien au contraire. Il sauve plusieurs personnes, plusieurs juifs de la mort. Cela peut être prouvé, c'est documenté. Mais il fait néanmoins partie du système, et j'ai voulu décrire cela de la manière la plus juste possible. Je veux simplement montrer comment les choses se sont passées. Et je crois que le monde est fait de zones d'ombre. Le noir et blanc n'existe pas.
Sondern eigentlich nur zeigen, so war das. So haben die Leute das selbst wahrgenommen und gesehen. Und ich glaube, die Welt besteht aus Grauzonen. Dieses Schwarz-Weiß existiert nicht.
Es gibt aber eine sehr, sehr harte Szene. La scène la plus dure se déroule vers la fin du livre, lorsque Bruno Lose et Pierre Bonny, fondateurs de la Gestapo française, la Carlingue, torturent les enfants de la famille Schloss pour savoir où se cache leur célèbre collection d'œuvres d'art. Bonny a été exécuté en 1944 après la libération. Cette scène est perfide et brutale. L'avez-vous écrite pour montrer, pour une fois, dont sont capables des fascistes et des voleurs criminels?
Ja, denn dieser Pierre Bonny hat genau das, was da beschrieben ist. Wir wollen nicht erzählen, was er gemacht hat.
Oui, car ce Pierre Bonny a exactement fait ce qu'il est décrit. Il a torturé des personnes. On dit de Bruno Lose qu'il a commis un meurtre. Ce sont vraiment des coupables. Bruno Lose, alors marchand d'art, a été condamné à 10 ans de prison. Et quand on sait quelles étaient les peines prononcées contre les criminels nazis dans les années 50, c'était une peine très lourde pour un historien de l'art. Beaucoup ont été acquittés, il faut le voir ainsi. À un moment donné, on ne peut plus détourner le regard. Et c'est le problème d'Erhard Goeppel. Il a détourné les yeux pendant trop longtemps.
Ich glaube, genau darum geht es. Man kann dann irgendwann doch nicht wegschauen. Und das ist das Problem, was Erhard Goeppel versucht hat. Er hat zu lange weggeschaut.
Diese Sammlung Schloss, die ja doch enorm viele Werke umfasste. Das waren 100. Cette collection d'Alphonse Schloss comprenait un nombre considérable d'œuvres. Il y en avait des centaines qui ont ensuite été spoliées et volées. A-t-elle été restituée?
Überwiegend nicht. Also die Sammlung ist ja fast komplett, ich glaube 270 Gemälde sind nach München gegangen.
En partie, mais pas en grande partie. La collection, presque complète, avec environ 270 tableaux, a été transférée à Munich et entreposée dans la Braunes House, le siège du Parti national-socialiste. Puis, cette collection a été pillée dans les derniers jours de la guerre. Certaines œuvres, qui ont refait surface plus tard dans le commerce de l'art, ont été restituées. Mais la majeure partie de la collection est perdue. On ne sait pas ce qu'il est advenu des œuvres.
Wichtig finde ich auch den Epilog, in dem Sie sich ausmalen, wie Erhard Göpel 1956, kurz vor der Eröffnung. Ich finde également important l'Epilog, dans lequel vous imaginez comment Erhard Göpel en 1956, peu avant l'ouverture d'une exposition Beckmann, contemple le tableau Der Traum von Monte Carlo, Le rêve de Monte Carlo, en compagnie du directeur de la Kunsthalle de Stuttgart et d'une conservatrice. Et vous décrivez comment tout ce en quoi Erhard Göpel croyait s'écroule. Beckmann avait peint ce tableau en 1939. Il mesurait 2 mètres de large et 1,60 m de haut. Je voudrais que vous lisiez une partie de l'épilogue.
Im Mittelpunkt der Darstellung erkannte man hintereinander stehend 2 Spieltische, bezogen mit grünem Stoff. Auf dem vorderen lagerte lasziv eine Frau mit halb entblößtem Busen, die man unschwer als Naila, Max ehemalige Geliebte, identifizieren konnte.
Au centre du tableau, on reconnaissait 2 tables de jeu recouvertes d'un tissu vert, placées l'une derrière l'autre. Sur la table de devant était allongée de manière lascive une femme au sein à moitié dénudée, que l'on pouvait facilement identifier comme étant Naila, l'ancienne maîtresse de Max. En face d'elle était accroupie une autre femme au sein nu, jouant aux cartes, la femme, les cheveux couverts d'un foulard à pois. Entre les deux était accroupie une vieille femme qui, telle une voyante, tenait ses cartes devant ses yeux. À la deuxième table de jeu, à l'arrière-plan, se tenaient 2 hommes qui jouaient au baccarat. Un croupier, debout sur le côté, tenait dans sa main un balai de table levé avec lequel il allait ramasser les mises. « Rangez cette image, voulait dire Göpel. Rangez-la, je ne l'aime pas. » On reconnaissait immédiatement ce qu'il y avait à voir. Il connaissait ce tableau et ne le connaissait pas. Beckmann lui avait montré il y a de nombreuses années, mais il était maintenant complètement transformé, repeint. La deuxième table à l'arrière-plan, celle avec les hommes. Göpel baissa les yeux. « Tu ne te feras point d'idole, dit-on, de Dieu, et non des hommes qui sont ses créatures. » On ne devait pas se faire d'image de lui. Ou bien était-ce permis ? Se faire une image de lui, l'imaginer, en dessiner les contours et le colorier ? Et si oui, que voyait-on alors ? Qu'avait vu Max quand il le regardait ? Qu'est-ce que ce rire grossier avait à voir avec lui ? Qu'est-ce que ses yeux avides avaient à voir avec lui ? Ses lèvres retroussées, rondes comme un anus, sous lesquelles apparaissaient des dents acérées. Les oreilles surdimensionnées qui écoutaient tout, les doigts pointus, enroulés autour d'une épée, une main possessive à côté des cartes à jouer. Mais était-ce vraiment des cartes à jouer ? Ou plutôt de petits tableaux ? Göpel haleta et ne dit rien. Il vida son verre, passa son doigt sous son col. « Les hommes sont des joueurs, dit-il. » Il dut répéter la phrase, sa voix ne lui obéissit pas. « Des figures allégoriques, peut-être. » Beckmann n'avait-il pas fait preuve de compréhension ? N'avait-il pas hoché la tête ? Göpel sentit que le directeur de musée et l'historienne de l'art le regardaient d'un air étrange et chuchotaient. Ils regardaient leurs documents, puis lui, puis le tableau. Ils chuchotaient. « Des figures allégoriques, croissait-il en hochant la tête. » Il tendit un doigt. « Dans l'œuvre de Beckmann, l'allégorie en général, cela signifie la métaphysique et puis la couleur noire. » Il ne pouvait plus respirer. Il tituba. « Avait-on fermé toutes les fenêtres ?» Une voix l'appela, mais il ne pouvait pas entendre. Il trébucha hors de la salle, trébucha dans le hall d'entrée, la bouche en forme d'anus, la main tachée de sang. Un vide de plomb s'abattit sur lui. Que diable faisait-il encore ici ? Il dut fermer les yeux et s'appuyer contre le mur de la maison. Une seule pensée l'habitait. Max Beckmann n'était pas son ami. Il n'était pas de son côté. Tout ce qu'il avait fait pour cet homme, tout ce qu'il avait risqué, toute l'admiration qu'il lui avait témoignée. Mais là, il voyait ce qu'il avait vraiment été pour Beckmann, ce qu'il valait vraiment à ses yeux. Il le regardait d'un œil dissecteur, précis, impitoyable et glacial jusqu'au cœur. Le jugement de Beckmann était ce qui restait, ce qui resterait et éclipserait tout. Et il l'entendait murmurer derrière lui, d'une voix calme et d'un souffle froid. « Regardez, voici le docteur Erhard Goepel, le marchand d'Hitler. »
Max Beckmann war nicht sein Freund. Beckmanns Urteil war es, was blieb, was bleiben und alles überschatten würde. Und er hörte ihn raunen, der hinter ihm stand, mit kühlem Atem und leiser Stimme. Seht, hier steht Dr. Erhard Goepel, Hitlers Händler.
Glauben Sie, Frau Lodes, dass Erhard Goepel fähig war zu erkennen?
Pensez-vous que Erhard Goepel était capable de reconnaître que Beckmann ne voulait en fait être ami avec personne qui devait s'accommoder du régime? Ou mettez-vous un point final en disant que finalement, l'historien de l'art Goepel n'était rien qu'un fournisseur?
Beides. Er war ein Beschaffer. Und auch ein engagierter und begeisterter Beschaffer.
Les deux. Il était un acquéreur engagé et enthousiaste. Il avait également le sentiment d'agir dans un cadre objectif, compréhensible, correct et moral, car il payait. C'est une question complexe. Les œuvres d'art ont été payées, il ne les a pas volées. Mais à mon avis, Beckmann était très critique à son égard, comme le montre l'autre portrait qu'il a peint de lui. Beckmann a bien sûr également accepté son aide. Personne n'est donc tout à fait innocent dans cette affaire.
Beckmann hat natürlich auch seine Hilfestellungen auch angenommen. Also es ist da keiner so ganz unschuldig.
Lassen Sie uns noch ganz kurz den Blick, après avoir parlé de votre roman Triomphe et Tigre, tournons brièvement notre regard vers un livre que vous avez publié en 2021. Il s'intitule Ludwig Jacobs ou la vie disparue, un pionnier de l'économie et mécène de l'art. Vous avez vous-même étudié les lettres allemandes et les sciences économiques. Puis, vous avez dirigé un grand cabinet avec votre mari, l'architecte et sculpteur Stefan Ludes. Avec lui, vous avez également entamé la restauration de la maison d'été de Ludwig Jacobs, située dans un parc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qui vous a tant intéressé chez Ludwig Jacobs?
Es ist eine vergessene Geschichte. Er war in seiner Zeit, er war der reichste Bürger Preußens, was man heute nicht mehr weiß.
C'est une histoire oubliée. À son époque, il était le citoyen le plus riche de Prusse, ce que l'on ignore aujourd'hui. Et comme c'est souvent le cas avec les gens riches, il connaissait bien sûr des personnes extrêmement intéressantes. Il était par exemple ami avec l'architecte Carl Friedrich Schinkel. Il était également très proche du naturaliste et voyageur du monde Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt est le parrain de son troisième fils. Il est clair, la richesse ne crée pas de souvenirs. On finit par être oublié si l'on n'est que riche. Ce qui reste, c'est l'art et la culture. Le monde regorge. Nous ne savons pas toujours qui a créé ceci ou cela, mais nous voyons ce qui en reste. Et Jacobs a beaucoup créé. Il a créé cet endroit qui fait aujourd'hui partie du patrimoine mondial. Lui-même est tombé dans l'oubli. Mais quand on se replonge dans son époque et qu'on découvre les liens entre ces personnes, l'histoire berlinoise et prussienne devient extrêmement intéressante d'un point de vue bourgeois. Car la plupart de l'histoire documentée est bien l'histoire des nobles. Ce sont eux qui écrivent des livres et produisent des documents. Les bourgeois laissent rarement des traces. C'était donc assez laborieux de découvrir leurs secrets, mais d'autant plus passionnant d'analyser toutes ces sources.
Die Bürger hinterlassen selten Spuren und insofern war das etwas mühsam, ihm auf die Schliche zu kommen und umso spannender, all diese Quellen auszuwerten.
Wie lange hat es gedauert, diesen Park? Combien de temps a-t-il fallu pour restaurer ce parc, cette maison? Et l'ensemble du domaine.
20 Jahre.
Oui. Langer Atem.
Ja, langer Atem. Aber man nimmt sich jedes Jahr so ein Projekt vor. Der Park hat 8 Hektar, also 80.000 Quadratmeter. Das ist jetzt wirklich nicht ganz klein.
20 ans. Il fallait avoir beaucoup de persévérance. Le parc fait 8 hectares, soit 80 000 mètres carrés. Ce n'est vraiment pas petit. Et chaque année, on s'est attaqué à une partie et on l'a restaurée. C'est beau. On a terminé les travaux vers 2020 et depuis 5 ans, nous avons à faire l'entretien. On oublie facilement qu'un jardin n'est pas seulement un biotope, mais un être vivant à part entière. Tous ceux qui ont un jardin savent que les plantes veulent s'épanouir, ou non. Et quand elles veulent s'épanouir, elles le font. C'est un processus de confrontation constante.
Und jeder, der einen Garten hat, weiß, Pflanzen wollen gedeihen oder nicht. Und wenn sie gedeihen wollen, wollen sie sich zu sehr ausbreiten. Und das ist ein ständiger Auseinandersetzungsprozess.
«
Et c'était l'épisode 41 de Litteramour avec Sigurd Brinkmann et Marianne Lunes. Nous avons parlé de son premier roman, Trio mit Tiger, un ouvrage riche en informations, historiquement précis, écrit avec finesse et sensibilité. Un grand merci aussi à Alice Lacoula-Barthe qui a prêté sa voix à Marianne Lunes. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine fois et passez une bonne journée. Thank you.